Suite des matins, on va parler du Mali et de ce qui s'est déroulé samedi 23 mars, puisque des hommes armés, vêtus des tenues traditionnelles des chasseurs Dogons, sont entrés dans le village d'Ogossagou, dans le centre du Mali, pour massacrer les habitants du quartier Peul. L'assaut a fait au moins 136 morts et des dizaines de blessés, vous l'avez entendu dans les actualités, mais bien évidemment, il est parfois difficile de comprendre les tenants et les aboutissants de ce type de drame. C'est la raison pour laquelle j'ai invité l'un des meilleurs connaisseurs de l'Afrique, Jean-François Bayard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'IHEID de Genève. Vous avez notamment publié « Violence et religion en Afrique » et « L'état de distorsion en Afrique de l'Ouest des empires à la nation », les deux livres chez Cartala. Il faut tout d'abord nous dire, Jean-François Bayard, ce qui se joue aujourd'hui au Mali.
Alors, pour comprendre ce qui se joue au Mali, il faut abandonner le vocabulaire qui inévitablement nous encombre, tradition, ethnicité, état faible. Il ne s'agit absolument pas de cela. Par exemple, cette confrérie des chasseurs qui est intervenue dans une opération que l'on va qualifier provisoirement de purification ethnique, hein, donc Dogon versus Peul, comme l'on dit, et cette milice est très largement instrumentalisée par un État qui n'est pas si faible que cela. Donc nous sommes devant une configuration très classique de formation, on va dire, paramilitaire. Tout à fait comparable, mutatis mutandis, à ce que l'on voit en Colombie ou ce que l'on a vu pendant les guerres de Yougoslavie dans les années 1990.
Alors qui sont les Dogons et qui sont les Peuls ?
Alors, les Dogons, c'est entre guillemets ce que l'on appelle une ethnie, et ce que l'on ne doit surtout pas en réalité conceptualiser en termes d'ethnie. Donc c'est effectivement une appartenance, c'est une appartenance qui a des racines historiques, mais dont le contenu aujourd'hui est complètement différent, parce que ce qui est l'enjeu du conflit, c'est un enjeu éminemment moderne, c'est la terre. Hein, et c'est la terre titrisée, c'est-à-dire capitalisée, transformée en propriété foncière, dans un contexte de forte pression démographique, de stress également climatique, avec des sécheresses à répétition.
On dit que le Mali est effectivement l'un des pays les plus touché aujourd'hui par le réchauffement climatique, Jean-François Bayard.
Oui, bah grosso modo, depuis les années 1970, il y a eu toute une succession de sécheresses, et notamment les sécheresses du début des années 1970, ont eu des conséquences extrêmement directes, avec par exemple une descente du front de transhumance des troupeaux de plusieurs centaines de kilomètres. Et par ailleurs, donc tous ces accords, si vous voulez, entre groupes, par exemple groupe de pasteurs et groupe d'agriculteurs qui reposaient, on va dire, sur une espèce de droit contractuel, hein, de multiples accords. Tous ces compromis inscrits dans la longue durée historique ont été plongés dans une crise du fait de la dégradation des conditions climatiques, du fait de la pression démographique, de toute une série de chocs économiques comme la réintégration du Mali dans la zone franc, comme une politique d'ajustement structurel, de libéralisation économique, etc., etc. Et également dans un contexte où l'accaparement privé de la terre, soit par des fonctionnaires, soit par de grands groupes agro-industriels ou des groupes miniers, remettent en cause, par exemple, les voies traditionnelles ou les voies historiques de transhumance. Donc ce sont des conflits qui sont très économiques et très modernes.
Alors, on a affaire à des conflits localisés. Là où ces conflits localisés rejoignent une problématique mondiale, la problématique du djihadisme, Jean-François Bayard, c'est dans le fait que ce village, Ogossagou, abritait l'un des camps informels de désarmement d'anciens combattants djihadistes, l'un de ces camps qui a été créé dans le centre du pays, c'était une initiative privé, monté par un Malien pour pallier le manque d'infrastructures du processus de désarmement, démobilisation et réintégration lancé par le Premier ministre fin 2018. On voit bien que là, on part donc d'un conflit qui peut être assimilé à un conflit intercommunautaire pour arriver à quelque chose qui nous est plus familier, si j'ose dire.
Oui, alors je voudrais rappeler que cet ouvrage, l'état de distorsion, je l'ai écrit avec Ibrahima Poudjougou, un jeune chercheur malien, et Giovanni Zanelletti, et eux ont vraiment fait un terrain très très fin, et ont montré comment les logiques qui prévalent sont des logiques, on pourrait dire, de terroir historique. Hein. Donc vous avez des logiques d'imbrication, c'est pas d'un côté, si vous voulez, les Peuls, et d'un autre côté, les Dogons. Hein. Vous avez des logiques d'imbrication entre ces différents groupes qui se nouent autour d'intérêts, et certains de ces intérêts, je le répète, sont très modernes. Alors, il y a toute la question, effectivement, du rétablissement de la paix, il y a le rôle des djihadistes, et là, dans l'analyse de la religion, nous devons éviter deux écueils. Le premier écueil, c'est celui de la surinterprétation religieuse, pour parler comme Paul Venn, c'est-à-dire de voir de la religion là où il n'y en a pas forcément. Et on sait, par exemple, comment les djihadistes ont apporté une réponse à la fois politique et juridique, en mettant en avant le droit islamique, que l'État dit moderne ou l'État dit de droit n'apportait pas. Par exemple, les djihadistes sont mieux disants dans le règlement des conflits fonciers entre éleveurs et agriculteurs. Donc vous avez tout cet aspect des choses qui est extrêmement important. Après, le désarmement, comme l'on dit, c'est une question d'économie politique. À combien on rachète la Kalachnikov, par exemple, dans quoi va être investi l'argent de la Kalachnikov que l'État rachète, par exemple dans du bétail, et le bétail est une manière de... c'est un point sur lequel insiste beaucoup Giovanni Zanelletti en parlant du djihad de la vache, hein, ou de la politique de la vache. Donc là, par exemple, les troupeaux, c'est pas simplement la tradition hein, que escorterait en quelque sorte les bergers peuls. Ce sont des enjeux à nouveau extrêmement modernes et extrêmement complexes, parce que dans un troupeau, vous avez les vaches des fonctionnaires, les vaches éventuellement de certains agriculteurs, vous avez les vaches des peuls ou d'autres groupes de pasteurs, et vous avez les vaches des djihadistes, parce que le troupeau est aussi un moyen de blanchir en quelque sorte, par exemple, l'argent des rançons ou l'argent de la démilitarisation.
Mais alors, est-ce que vous êtes en train de dire, Jean-François Bayard, que finalement, le djihadisme est toujours surdéterminé par d'autres raisons, que finalement, on n'a pas affaire à un processus de radicalisation religieux, mais plutôt à des gens qui finalement vont instrumentaliser en quelque sorte le djihad.
Alors le deuxième écueil qu'il faut éviter, puisque vous
c'est
ramenez
celui que je viens de quand même
qu'arrive des cils là. Donc le deuxième écueil, c'est que il faut rendre compte de ce que Max Weber nommait les logiques intrinsèques de la foi. Et vous avez en effet en Afrique de l'Ouest une grande tradition de djihadisme qui est très complexe.
Elle commence quand l'islam au Mali,
modo,
qu'est-ce que ça signifie?
Alors l'islam au Mali, c'est une très longue affaire, hein, puisque l'islam est arrivé dans la région du 11e, 12e, 13e siècle suivant. Et ce que l'on oublie parfois, c'est que la colonisation a été un facteur d'islamisation.
Pourquoi?
Parce que d'abord, la colonisation a construit des routes, a construit des chemins de fer, ce qui a intensifié les flux commerciaux certes, mais également humains et religieux. L'État s'est beaucoup appuyé, l'État colonial s'est beaucoup appuyé dans certains cas sur des institutions islamiques, après les avoir tenues en suspicion, notamment du fait de cette tradition djihadiste. Mais ce qu'il faut bien voir, et ça c'est un point essentiel, c'est que ce que l'on nomme le djihad est politiquement polysémique. Vous pouvez lui faire dire tout et le contraire de tout. Par exemple, le grand djihad de Ousmane Danfodio dans le nord du Nigeria au début du 19e siècle a été un djihad anti-esclavagiste, c'est-à-dire qui a émancipé les musulmans de la traite atlantique des Européens, tout en continuant à pratiquer un esclavage au détriment des non-musulmans.
Mais alors, aujourd'hui, on considère que le Mali est très majoritairement musulmans, 95% des habitants sont musulmans aujourd'hui dans ce pays.
Avec de vraies missions chrétiennes également, par exemple les Dogons, d'abord sont pour certains d'entre eux d'islamisation récente, et pour d'autres d'entre eux sont éventuellement chrétiens ou sans appartenance religieuse bien déclarée. Hein. Donc, le Mali est un pays qui est majoritairement musulman, mais pas exclusivement. Et deuxièmement, une fois que l'on a dit musulman, on n'a pas dit grand-chose, parce que vous avez une très forte tension entre au moins pour simplifier, trois pôles d'islam.
Dites-nous
un pôle
lesquels.
Confrérique, qui lui-même est clivé entre...
Confrérique, c'est-à-dire
les grandes confréries musulmanes, comme par exemple la Tijania, la Qadiria, éventuellement, d'une certaine manière, la Mouridia, mais c'est moins évident au Mali. Donc vous avez une mouvance confrérique que l'on va qualifier en Europe de modérée, mais enfin c'est pas si simple que cela, parce que vous avez dans le droit maléquite des dispositions qui ne sont absolument pas modérées, même s'il y a une grande tradition d'accommodement politique. Le deuxième pôle, c'est un islam réformé que l'on qualifie par exemple au Mali, parfois au Mali, de wahhabia, par référence aux wahhabites, mais uniquement parce que cet islam réformé a été porté par des marchands qui faisaient le hadj, qui faisaient le pèlerinage, et qui en rapportaient d'une part des idées réformées et d'autre part beaucoup de biens qu'ils commercialisaient. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Arabie saoudite en tant que telle. Et puis, troisième cerise sur le gâteau musulman, si je puis dire, c'est l'islam djihadiste qui est au Mali, donc l'islam djihadiste contemporain, hein, le djihad de Ben Laden, etc., qui a été externalisé par l'Algérie au Mali, et qui a fait alliance, et notamment alliance matrimoniale, avec certains acteurs du nord malien, Touareg, arabes, ou éventuellement peuls.
Et alors, justement, quand on prend les peuls, par exemple, on a tendance, mais j'imagine que vous allez nous dire qu'il s'agit d'un amalgame abusif, on a tendance à considérer que les djihadistes, ils se recrutent principalement parmi les peuls. On a vu, par exemple, une vidéo qui a été diffusée peu de temps avant sa mort par Amadou Koufa, qui est l'un des chefs djihadistes de cette région, qui appelait les peuls à se rallier à la cause djihadiste et à se soulever. Est-ce que ça signifie qu'il y a là aussi alors une situation religieuse qui recouvre, j'imagine, une situation sociale? Mais comment les choses se déterminent-elles là-bas, Jean-François Bayard, vous qui êtes un spécialiste de l'Afrique?
Alors, chez les peuls, vous avez une grande référence historique de djihad. Par exemple, Ousmane Danfodio, dans le nord du Nigeria, était peul. Donc, vous avez cette rémanence ou cette mémoire historique. Ensuite, vous avez un acteur armé qui va mobiliser les peuls, mais tout en disant bien qu'il n'est pas au service des peuls. Et ensuite, vous avez d'autres groupes qui vont dire, ah, vous voyez, derrière les pasteurs, derrière les troupeaux, il y a le djihad, parce que c'est bien entendu la meilleure manière d'obtenir des soutiens de Bamako et de la France.
Alors justement, soutien de la France, vous en parlez, Jean-François Bayard. Donc on a une situation assez complexe, avec une situation, disons, de communauté surdéterminée, avec donc un djihadisme qui lui s'étend, puisque le nord du Mali est tombé depuis mars 2012 sous la coupe de groupes djihadistes qui sont liés à Al-Qaïda. Et on a cette intervention française qui donc vise à pacifier la région. Une intervention qui, disons, laisse de plus en plus dubitative. Vous êtes d'accord avec cela, Jean-François Bayard?
Malheureusement, l'embourbement est consommé. Je ne reviens pas sur le bien fondé ou le non fondé, si je puis dire,
vous avez le droit d'y
revenir. En 2012. Mais en tout état de cause, et les militaires sont les premiers à le savoir, il n'y aura pas de réponse militaire à ce qui est d'abord, au Mali comme dans le bassin du lac Tchad, un problème politique et un problème social. Donc la question sociale, c'est bien entendu la question de la terre. La question éventuellement, c'est moins évident dans le cas du Mali que dans le nord du Nigeria, la question des anciens captifs, hein, c'est cette question des qui n'a jamais été entièrement réglée ni socialement ni politiquement de l'esclavage. C'est la question, bien entendu, de l'accès à l'école ou aux hôpitaux qui ont été systématiquement détruits par les programmes d'ajustement structurel cautionnés par la France dans les années 1980. Et puis la question politique, et c'est là où on retrouve cette hypothèse de l'état de distorsion, c'est que l'état contemporain au Mali est distordu par une contradiction, mais il ne faut pas la comprendre en jeu à somme nulle, une contradiction entre des logiques de très longue durée, de mobilité, de relativité des appartenances sociales, par exemple ethniques, religieuses, etc., et une logique inoculée en quelque sorte par la colonisation, de territorialisation sous toutes ses formes de l'État. Fixation des frontières, intangibilité des frontières, contrôle de la circulation des hommes, accaparement privé et donc titrisation de la terre, etc., etc.
Titrisation, financiarisation de la terre.
Et financiarisation de plus en plus de la terre. Bon, notre hypothèse, c'est que ça n'est pas un jeu à somme nulle entre ces logiques de longue durée et les logiques de l'État territorialisé contemporain. Le problème, c'est que les Maliens, comme tous les Africains, se reconnaissent simultanément dans ces deux répertoires politiques. Et naturellement, il y a une très forte tension, mais une tension que malheureusement, l'intervention militaire et de plus en plus l'intervention sécuritaire au sens large du terme, avec par exemple l'ingérence de l'Union européenne dans les flux migratoires de l'Afrique de l'Ouest. Donc ces ingérences sécuritaires de l'extérieur, malheureusement, exacerbent cette tension et n'apportent aucune réponse politique au problème.
Jean-François Bayard, qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette galère ?
On solde une très très vieille histoire. On solde une histoire coloniale et bien entendu, mais pas seulement. L'Afrique est aux portes de l'Union européenne. L'Union européenne s'imagine qu'elle va régler cette question par une lutte anti-migratoire qui est complètement contradictoire à ses propres intérêts et qui est vaine et qui a des effets pervers, y compris pour la sécurité de l'Europe, absolument redoutables. Et puis l'Europe se console en disant, bon, on va être un peu dur, un peu ferme en matière d'immigration, mais grâce au co-développement, tout va s'arranger. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez aucune solution politique crédible parce que les politiques publiques de l'Union européenne reposent sur de mauvaises hypothèses, et c'est précisément ces mauvaises hypothèses que nous essayons de critiquer et de remettre en perspective dans notre ouvrage L'État de l'Histoire.
De mauvaises hypothèses, mais au bout du compte, quand on est aujourd'hui engagé sur ce terrain, puisque c'est le cas, on a l'opération Barkhane. L'opération Barkhane, elle est soutenue, elle est associée à la MINUSMA, qui est une mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali. Bref, il y a aujourd'hui un mécano militaire assez complexe. Qu'est-ce que l'on peut faire ? On ne peut évidemment pas se désengager du jour au lendemain de cette région aujourd'hui.
Non, mais on pourrait s'investir dans la région autrement que par le biais de dispositifs sécuritaires anti-migratoires militaires. Et ce qu'il faut savoir, et nous avons même des expériences de laboratoire, par exemple le Kenya vis-à-vis de la Somalie, c'est que toute opération militaire accroît le risque terroriste plutôt qu'il ne le réduit. Et nous en sommes là, c'est-à-dire que le dispositif militaire...
Ça, c'est une conclusion qui gagnerait à être popularisée, parce qu'il y a eu beaucoup quand même d'interventions militaires, même très éloignées du Mali, Jean-François Bayard, qui n'ont pas tenu compte de cette observation.
Le Kenya, en intervenant militairement en Somalie, se retrouve avec le terrorisme à Lamu, à Mombasa et à Nairobi. Le Tchad et le Cameroun, en intervenant dans le nord du Nigeria contre Boko Haram, se retrouvent avec un terrorisme interne. Et aujourd'hui, l'intervention militaire, que je ne cherche pas à stigmatiser, mais il faut analyser les choses, l'intervention militaire au Mali a étendu le problème au Burkina Faso.
Bref, on se rencontre en vous entendant que la question djihadiste est loin d'être terminée. On va quitter le Mali dans quelques instants. On va essayer de voir plus généralement où en sont les djihadistes, cette fois-ci en Syrie, puisqu'on nous dit qu'ils sont défaits à Baghouz. Mais que pourraient-ils devenir ? On va voir quels sont en quelque sorte le jeu des acteurs dans cette région-là. Vous serez rejoint, Jean-François Bayard, par Anne-Clémentine Larocque, qui est une spécialiste du djihadisme. Je rappelle le titre de vos deux ouvrages, « Violence et religion en Afrique » et « L'état de distorsion en Afrique de l'Ouest », tous deux aux éditions Cartala. On se retrouve dans quelques minutes. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil.